le journal de la rédaction avec vous, Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Le blocage politique est complet en Israël. Faute de coalition, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a demandé aux députés de dissoudre le Parlement hier. Les Israéliens vont donc devoir revoter à la rentrée prochaine pour la deuxième fois en 5 mois. Nous irons sur place.
Et puis l'Arabie Saoudite espère mobiliser le monde arabe contre l'Iran. 3 réunions sont organisées dans le Golfe aujourd'hui et demain. Nous analyserons la stratégie de Riyad.
Dans ce journal aussi, nous nous intéresserons à la chasse aux eurodéputés dans les couloirs du Parlement européen. Les groupes tentent de convaincre certains élus de les rallier et pas n'importe lesquels, vous le comprendrez.
Des syndicats d'enseignants menacent de faire grève pendant la première épreuve du baccalauréat le 17 juin prochain. Le SNES s'en explique dans cette édition.
Et puis dans un quart d'heure, nous accueillerons Frédéric Saïs pour son billet politique. Il est consacré ce matin à la phase 2 du quinquennat et à l'accélération du calendrier politique. Les tractations et marchandages auront duré jusqu'à la dernière minute, mais rien n'y a fait. 2 mois après les législatives, Israël n'a toujours pas de gouvernement, toujours pas de coalition. Pour convoquer de nouvelles élections, la Knesset, comprenez le Parlement israélien, s'est sabordée hier sur demande du Premier ministre. C'est un échec pour Benjamin Netanyahou qui voulait entamer son 5e mandat. Impossible en l'état au vu des divisions dans la classe politique à droite. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant dans le pays. Benjamin Netanyahou apparaît plus fragilisé que jamais, Étienne.
Oui, même si hier soir, Benjamin Netanyahou s'est présenté comme la victime d'un complot organisé par son ancien ministre de la Défense. Il est responsable de cet échec. Il n'a pas vu venir la menace. Il n'a pas trouvé la parade. Il a même fait preuve de fébrilité hier soir en bradant les postes de ministre dans les dernières heures. Il est enfin celui qui a préféré dissoudre la Knesset plutôt que de remettre le mandat au président pour tenter de trouver une autre solution avec un autre chef de parti. Dans cette tragédie politique, Benjamin Netanyahou paye sans doute déjà le poids des affaires. C'est l'un des éléments qui peut expliquer la mutinerie d'Avigdor Lieberman. La psychologie de l'ancien ministre de la Défense est un blockhaus, mais il a sans doute senti la faille, frustré depuis des années d'être corseté dans l'ombre du grand Netanyahou. Aujourd'hui, les deux hommes se font mutuellement porter la responsabilité du fiasco. Il n'y a pas eu d'accord dans la nuit sur la conscription des ultra-orthodoxes. Les élections pourraient coûter plus de 100 millions d'euros. Elle devrait réinstaller un climat de tension et d'attentisme dans le pays.
Et maintenant, Étienne, que va-t-il se passer ?
Eh bien, Benjamin Netanyahou va repartir en campagne. Il reste le héros de la droite populaire. Hier, son parti a fait corps avec lui. Mais il aura peut-être une opposition de gauche un peu plus aguerrie et une extrême droite encore plus combative. Le vote tombera quelques semaines seulement avant son audition programmée devant la justice. Cette affaire contrarie les plans du Premier ministre. Il n'aura pas la possibilité de faire voter un parapluie légal pour se préserver de ses poursuites. Par contre, les États-Unis ne semblent pas contrariés par ce contexte. Le gendre de Donald Trump est à Jérusalem aujourd'hui pour discuter du volet économique du plan dit de paix qui sera abordé en juin dans la région malgré ces turbulences.
Merci Étienne Monin, correspondant de France Culture en Israël. Israël, dont le conseiller à la sécurité rencontrera ses homologues russes et américains à Jérusalem au mois de juin. La présidence des États-Unis l'annonçait hier soir sans préciser l'ordre du jour de cette réunion. Des rencontres, il en est aussi question ces jours qui viennent dans le Golfe Persique. 3 sommets vont s'y tenir aujourd'hui et demain. Il sera question en grande partie de l'Iran, accusé directement par les États-Unis hier d'avoir sabordé 3 pétroliers et 1 cargo au large des Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite, grand rival sunnite de l'Iran, est à l'origine de ces réunions. Elle réunit autour d'elle les pays du Golfe, la Ligue Arabe, puis l'organisation de la conférence islamique, avec un but bien précis, Aurélien Colli.
Démonstration de force diplomatique de l'Arabie Saoudite avec ses 3 sommets en 48 heures. Objectif pour Riyad, isoler un peu plus l'Iran sur la scène régionale. Le politologue libanais Karim Al-Moufti.
L'Arabie Saoudite, très influente de par les pétrodollars, de par bien évidemment son renforcement militaro-stratégique dans la dernière décennie, tente vraiment de rallier les différentes capitales arabes. C'est un message politique et stratégique vis-à-vis de l'Iran et de ses alliés. Ça structure un peu la pression. Ça montre un front commun. Ils sont d'accord sur les grandes orientations, qui sont d'accord sur la politique à suivre et notamment sur le dossier stratégique, l'affaiblissement de l'Iran.
Pour consolider un soutien arabe et musulman, Riyad ne manquera pas d'accuser Téhéran de déstabiliser la région, du Yémen au Liban, en passant par Bahreïn, l'Irak ou la Syrie. Mais en coulisses, car en dépit des bruits de bottes, la guerre reste le pire scénario et l'Arabie Saoudite cherche la pression diplomatique, pas la surenchère conflictuelle. Contrairement au faucon de l'administration Trump, Riyad se garde bien d'ailleurs d'accuser ouvertement l'Iran des sabotages de pétroliers en mer d'Arabie il y a 3 semaines.
La guerre des mots également en ce moment entre les États-Unis et la Chine. Pékin accuse Washington de terrorisme économique, regrettant la politique de Donald Trump à coups de droits de douane punitifs et de sanctions visant les entreprises chinoises. Nous sommes contre la guerre commerciale, mais nous n'en avons pas peur, a également déclaré le vice-ministre chinois des Affaires étrangères cette nuit. Nous avons largement évoqué depuis dimanche la course à la présidence de la Commission européenne et les tractations qui vont avec. Et bien parallèlement, depuis dimanche également, d'autres négociations se font, beaucoup plus discrètes, celles-ci, dans les couloirs du Parlement européen. Il s'agit de la chasse aux eurodéputés, élus dimanche dernier, à ceux qui n'ont pas encore de groupe attitré. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Clara.
Il s'agit en fait de fédérer le plus de monde possible, car la taille des futures formations est importante.
Et oui, elle conditionne l'influence que l'on aura durant le mandat. Le temps de parole, l'ordre des prises de parole, notamment lorsqu'un chef d'État est invité à Strasbourg, les postes importants, la qualité des commissions, sans oublier les moyens techniques et financiers, tout cela dépend du nombre d'eurodéputés, d'où la chasse à ceux qui n'ont pas encore rejoint un groupe, bien sûr en toute discrétion, comme l'explique Elisabeth Morin-Chartier, eurodéputée sortante.
Ça se passe de façon extrêmement discrète, plutôt en tête-à-tête, plutôt avec 2 tasses de café de part et d'autre de la table. Et très souvent, c'est au bar Mickey, à côté de l'hémicycle, que ces choses-là se préparent. Il faut savoir observer, il faut savoir qui parle à qui, qu'est-ce qui est en train de se préparer.
Important pour les grandes formations, le ralliement de ces députés peut être vital pour les plus petites, car pour constituer un groupe, il faut rassembler au moins 25 députés issus de 7 pays différents. On va donc parfois courtiser un eurodéputé qui apportera la nationalité manquante. C'est moins une question de nombre là que de critères. En 2014, cette règle des 7 pays avait ainsi empêché Marine Le Pen de constituer un groupe pendant plus d'un an et elle parlait toujours en dernier.
Ceux qui ont gagné en France dimanche n'ont donc pas forcément encore gagné en Europe, Marie-Pierre.
De même que des groupes aujourd'hui hauts pourraient se dégonfler demain si les Britanniques quittent l'Union. Les centristes perdraient ainsi les Lib Dem. Mais attention, la taille seule n'est pas suffisante pour peser à Strasbourg. Car au Parlement européen, il n'y a pas de discipline de groupe. Les eurodéputés peuvent voter selon des lignes nationales, faisant fi de celles de leur formation politique. À l'heure du vote, on perd donc forcément des voix dans ses propres rangs. Et il faut être à même d'élargir sa base, de bâtir des compromis, de rallier 3, voire 4 groupes pour l'emporter, ce qui demande de l'humilité. Bref, quelle que soit sa taille, nul n'est tout seul faiseur de roi à Strasbourg.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud pour ces précisions ce matin. L'Union européenne encore et sa commission qui demande officiellement à l'Italie de s'expliquer sur la détérioration de ses finances publiques. Cela pourrait aboutir dès la semaine prochaine à l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre Rome, dont la dette publique dépasse toujours le seuil de 60% du PIB. Le vice-président du Conseil italien Matteo Salvini a déjà annoncé que son gouvernement n'augmenterait pas les prélèvements obligatoires dans le pays.
8h08 sur France Culture, la suite du journal Clara Lecoq-Réal et la première journée des épreuves de baccalauréat le 17 juin prochain qui pourrait être perturbée par une grève des professeurs.
Oui, les professeurs qui surveillent les examens. Plusieurs syndicats enseignants appellent au boycott de l'épreuve de philosophie. Ils dénoncent le projet de loi pour une école de la confiance, projet de loi de Jean-Michel Blanquer, le ministre. Ils demandent également une revalorisation des salaires dans le secondaire. Parmi eux, le premier syndicat du second degré, le SNES-FSU. Sa secrétaire générale Frédérique Rollet reconnaît dans cette grève une décision rare, mais elle s'explique.
C'est exceptionnel, hein. C'est pour ça que ça souligne la gravité de la situation. On en arrive là pourquoi ? Parce que ça fait quand même plusieurs mois que dans les établissements, on a eu des grèves, on a eu des manifestations nationales. La réponse du ministre, c'est festival de bobards, pour reprendre une de ses expressions. On bouge rien, j'ai un calendrier. Donc on a vraiment le sentiment d'une espèce de mépris. Tout ça fait qu'à un moment, il y a une exaspération telle qu'on se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il entende, quoi? Et pour qu'il entende, eh ben, peut-être, il faut frapper un coup fort. C'est lui dire, attendez, monsieur le ministre, nous, on est très attachés à un bac national. Vous êtes en train de le mettre en cause. Eh bien, attention, vous avez encore la possibilité de réagir, là, dans les quelques jours qui viennent. Mais, autrement, vous porterez la responsabilité de dysfonctionnement le 17 juin.
Précisons que le SNES a mené une consultation interne à laquelle 12% des adhérents ont répondu. répondu, plus des trois quarts d'entre eux étaient favorables à cette grève le 17 juin prochain. Le principal suspect de l'explosion à Lyon vendredi est passé aux aveux. Cet étudiant algérien de 24 ans a commencé à parler hier dans les locaux de la sous-direction antiterroriste près de Paris. Il n'explique pas les raisons de son geste, mais il reconnaît avoir confectionné et déposé le colis piégé qui a fait vendredi 13 blessés. Il affirme également avoir agi seul alors que trois de ses proches sont toujours en garde à vue. Ils ont, selon le ministère des Affaires étrangères, bénéficié d'un procès équitable. Les 7 Français condamnés à mort en Irak pour leur appartenance au groupe État islamique ont été jugés normalement, selon Jean-Yves Le Drian. Il précise toujours que la France s'oppose à la peine de mort. C'était hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Le procès est équitable. Les audiences sont publiques. Les procès sont conduits par un magistrat du siège, assisté de 2 assesseurs. Le réquisitoire est conduit par un procureur. Un greffier consigne en direct l'intégralité des débats. L'avocat est présent. Et s'il y a un problème de traduction, l'ambassade elle-même fournit les interprètes. Le juge énonce les charges en début d'audience. Le prévenu se voit offrir la parole tout au long de l'audience. L'avocat intervient quand il le souhaite. C'est un procès équitable. Mais il concerne, évidemment, des terroristes. La question de la peine de mort, elle reste intacte. Nous y sommes totalement opposés. Mais ça vaut pour l'Irak comme ça vaut pour les États-Unis. Et nous faisons part de cette détermination aux plus hautes autorités de l'État irakien.
Jean-Yves Le Drian justifie ainsi la non-ingérence de la France dans la justice irakienne, alors que les avocats des familles des djihadistes réclament toujours leur jugement en France. Sur France Culture, hier soir, lors du journal de 22h, était invité le président et fondateur de l'Association française des victimes de terrorisme. Guillaume Denoy de Saint-Marc demande une justice sans peine de mort.
Je préfère savoir qu'un condamné pour terrorisme est encore disponible pour la justice dans le cadre d'un autre dossier au cas où, plutôt que de savoir qu'il est mort et qu'on ne pourra pas l'interroger. Donc il est vraiment important de pouvoir garder ces témoins sous la main pour pouvoir approfondir les investigations. On a le cas, par exemple, dans le cas de l'affaire Taralak qui a été jugée il y a très quelques jours, et un des 6 condamnés en Irak est lié à ce dossier-là. On aimerait beaucoup l'entendre, parce que si ça se trouve, ça ramènerait des éléments nouveaux dans le dossier. Ça élargirait le champ des personnes poursuivables. C'est pas en les tuant qu'on se débarrasse d'un problème.
7 Français ont donc déjà été condamnés à mort ces derniers jours en Irak. 5 autres y seront jugés d'ici lundi. Et qu'en est-il pour les enfants de djihadistes? Le gouvernement français souhaite toujours étudier leur possible rapatriement en France au cas par cas. Hier, le défenseur des droits de l'homme a appelé la France à faire cesser les traitements inhumains contre ses enfants, évoquant les mineurs détenus en ce moment dans des camps en Syrie. Ce n'est pas une surprise, mais les risques sont maintenant chiffrés. L'abus de plats industriels ultra transformés augmente le risque cardiovasculaire et le risque de décès. 2 études européennes menées auprès de plus de 120 000 personnes. Ces 2 études affirment que l'augmentation est d'environ 12% pour les risques cardiovasculaires. Intéressons-nous maintenant un instant aux enceintes connectées. Ces nouveaux outils qui permettent d'avoir accès à une mine d'informations et de données rien qu'avec la voix. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et Hadopi ont présenté ces derniers jours les résultats d'une enquête à ce propos, car déjà aujourd'hui, 1 Français sur 10 utilise une enceinte connectée, un nouvel usage qu'il faut réguler, Emmanuel Calafiore.
Les enceintes connectées font peur. 6 Français sur 10 estiment qu'elles peuvent être une menace pour leur vie privée. Hervé Gotcheau, membre du CSA et co-rapporteur de l'enquête, connaît les risques mais se veut rassurant.
Cet outil incarne quelque chose d'assez nouveau, dont on mesure assez mal les contours, mais qui nécessite de travailler dessus pour voir les usages, les enjeux économiques qu'il y a avec et quel type de régulation, pour revenir au CSA, il va falloir éventuellement lui appliquer.
Un mot ? Et l'enceinte se déclenche. Avec son micro intégré, elle espionne les conversations. Une faille exploitable pour les pirates informatiques. L'année dernière, certains avaient réussi à voler un casino grâce à un thermomètre connecté dans un aquarium.
Il n'y a pas d'outil, notamment informatique, qui ne soit pas piratable. Donc, l'enceinte connectée est certainement piratable comme n'importe quel autre objet. Jusqu'ici, et c'est important, il n'y a pas eu de cas avérés. Il y a peut-être des applications qui rendront l'enceinte connectée faible et qui permettront de rentrer dans un système. Mais pour l'instant, à notre connaissance, le cas ne s'est pas présenté.
Hervé Gauthier se veut optimiste. L'avenir des médias se joue sur ces enceintes.
Si demain, un certain nombre de gens vont plus écouter la radio sur les enceintes connectées que sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur ou sur un poste de radio, il faut qu'on y soit. Les plateformes de streaming musical aussi. On voit que la presse écrite et télévision créent des nouveaux formats également pour être présents sur les enceintes connectées. C'est un support de plus.
Et à la clé de nouvelles sources de revenus possibles, surtout que l'enquête estime que 4 foyers français sur 10 posséderaient au moins une enceinte connectée d'ici 2025.
C'est peut-être à travers votre enceinte connectée, votre ordinateur ou votre poste de radio, plus simplement, que je vous donne ce matin la météo de ce jeudi. La pluie va quitter le nord de l'Hexagone petit à petit pour laisser place à de belles éclaircies de la Bretagne à l'Alsace, mais pas avant la fin de journée. Ailleurs, le soleil se fera une place dès ce matin pour débuter un long week-end de l'Ascension, largement ensoleillé et surtout très chaud. Il y a d'ailleurs déjà ce matin beaucoup de monde sur les routes pour ce week-end. Ce jeudi matin, comptez 16 degrés à Lille et à Rennes, 17 degrés à Paris, 18 à Strasbourg et Bordeaux, 19 à Lyon, 22 degrés ce matin à Marseille.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.